48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 99e MAG de 48 FM, bientôt notre anniversaire.
Donc le programme... C'est le 100e l'anniversaire ?
Bah ouais, enfin, on peut fêter ça aujourd'hui si tu veux, mais j'ai pas fait de gâteau. Donc voilà, le programme reste le même, une heure d'émission et deux thèmes d'actualité. Donc avec moi pour présenter ce MAG, vous l'avez entendu, Nicolas.
Bonjour à tous.
Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler construction saine avec Jean-Michel Marquez, président de la CAPEB et charpentier, Rémi Corda, maçon et formateur en béton de chanvre, et Lionel Ronzier, qui est artisan peintre, voilà, si je ne dis pas de bêtises. Et nous parlerons ensuite de solidarité avec Patrice Bled, le directeur du centre de la Traverse, et Arnaud Lyotard, le chef de service du centre. Donc comme je l'ai dit, on va commencer avec la construction saine. Est-ce que vous pouvez déjà, en quelques mots, peut-être nous expliquer qu'est-ce que c'est la construction saine, en quoi ça consiste ?
Mais tout d'abord, bonjour, merci de nous recevoir. Ben, la construction saine, Rémi vous définira plus ce que c'est. En fait, là, on avait lancé il y a 3 ans la semaine de la construction saine. Donc, c'est des projets sur de la construction autrement, de la construction avec des produits locaux, de la construction avec des filières courtes. Et surtout, il y a des artisans formés pour pouvoir le faire. Donc, aujourd'hui, on arrive à avoir énormément avancé, c'est-à-dire qu'on a avancé sur des projets comme le chaud chanvre, qui étaient des projets tout à fait, originaux il y a 3 ans, à des chantiers, des maisons entièrement rénovées en chaud chanvre. Là, cette année, la nouveauté, c'est qu'on va présenter de la construction en paille. Enfin, même ça sera de la paille de riz. Donc, on est vraiment dans l'évolution d'une construction.
La maison du petit cochon.
Ouais, alors ça c'est quelque chose qui nous vexe énormément, si vous voulez. Donc c'est important que vous en parliez.
Elle démarre bien cette émission.
C'est important que vous en parliez de la maison des trois petits cochons. Effectivement, tout le monde en parle encore dans les écoles primaires, puisque j'ai un petit garçon de 5 ans et il m'a expliqué que son papa faisait des maisons comme celle des trois petits cochons. Mais nous aujourd'hui, on a des maisons qui ne brûlent moins qu'une maison en parpaing, puisqu'on a fait des tests avec du chaud chanvre et aujourd'hui on a des écarts au feu qui sont supérieurs à ça. Et puis notre maison des trois petits cochons, elle est faite en bois de pays. Donc on travaille des filières qui sont très courtes avec des produits qui sont faits pour le secteur.
Puisque, développement durable, ça s'inscrit
dans on est plus dans que dans du développement durable, on a dépassé cette chaîne-là, puisqu'aujourd'hui quand on abat un arbre sur la margerie et qu'on l'utilise sur la Lozère, on est vraiment dans des filières très très courtes, avec un produit qui est adapté. Donc ça, personne n'avait pris en compte jusqu'à aujourd'hui, mais on est vraiment, nous, dans cette démarche-là, de créer des emplois locaux qui sont non délocalisables, parce que déjà nos artisans étaient capables de le faire, mais surtout on a des artisans qui sont formés, et puis on a vraiment cette filière qui va permettre dans les années à venir de restaurer tout notre patrimoine, puisque aujourd'hui, le chaud chanvre, c'est vraiment l'avenir de tous nos bâtiments, autant privés que publics, parce que je l'entendais ce matin encore, il va falloir rénover tous les bâtiments d'ici une dizaine d'années. Donc ça va faire un potentiel de travail qui est énorme pour les entreprises, mais aussi dans la construction neuve. C'est-à-dire que on est en train de s'apercevoir que dans la démarche où on est rentré sur des maisons RT 2012, voire RT 2020...
Alors quand on parle de RT pour les
réglementations thermiques... Voilà, d'accord. Donc les exigences aujourd'hui qu'on apporte à la construction ont des problèmes qui n'étaient pas prévus au départ. C'est-à-dire qu'à faire des maisons totalement étanches, on crée des sacs en plastique et dans son sac en plastique, on crée de l'humidité. Donc aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir que quand on rentre vraiment dans la logique de l'étanchéité totale de la maison, on va créer des maladies. Déjà, il faut être clair, hein, quand on vit dans un sac en plastique, eh bien, on a de l'humidité au quotidien. Nous, on est en train de...
Enfin, c'était vraiment un sac en plastique ou un sac en plastique avec un système d'aération dans alors, qui était combiné, quoi.
Oui, mais enfin, le système marche, d'aération, hein, enfin, on parle à la fois de réglementation thermique, mais d'économie d'énergie. Quand on fait tourner des VMC 365 jours par an, 24 heures sur 24, je pense que l'économie d'énergie, il faut commencer à en parler. Et puis, il faut savoir que quand on rentre des VMC dans des bâtiments, il faut un suivi. Ça, on a oublié de le dire aux gens. On a oublié de dire qu'une VMC double flux, c'était pas une machine composée qu'on revenait changer 20 ans quand le moteur est foutu. Il faut qu'il y ait un suivi quotidien. Il faut qu'il y ait un suivi à l'année.
Changer les filtres, etc.
Il faut changer les filtres. Il faut s'apercevoir qu'on n'est pas des points bas. Parce que s'il y a des points bas dans les tuyaux, on crée la salmonelle. Soyons bien clairs.
C'est-à-dire de la condensation.
La condensation.
Voilà, avec de l'eau résiduelle.
Et voilà, de l'eau qui est chaude, ouais. Puisqu'on on réchauffe. Donc, on rentre dans des problématiques qui étaient loin de ça quand on a créé ces choses-là.
Alors, juste, je voulais vous couper juste pour recadrer un petit peu le truc. On parle de maisons saines. Ça veut dire qu'avant, on était sur des maisons qui ne l'étaient pas ou qui l'étaient moins. Comment est venu ce constat qu'aujourd'hui, on parle de construire sainement? Est-ce qu'avant, ce qu'on appelait le traditionnel, c'était pas sain, ou qu'est-ce qu'il y avait qui faisait que les maisons étaient pas très saines? Parce qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et les auditeurs aimeraient comprendre aujourd'hui, quand on fait des choix, est-ce qu'on achète une peinture, quand on construit en béton, est-ce que il y a des risques ou pas?
Alors, des risques, c'est durement définissable. Aujourd'hui, les risques, oui, on peut l'envisager. Il y a des maladies qui se créent, il y a des choses qu'on n'a jamais vues. Donc, il y a des risques, effectivement. Mais ce qu'on appelait le traditionnel, le vrai traditionnel, c'est de la pierre à bâtir en chaud. C'est de la charpente en bois non traitée. C'est des isolations locales. C'est pas obligatoirement du parpaing en béton. C'est pas obligatoirement de la laine de verre ou du placoplâtre jeté au mur. La vraie construction saine, en fait, on est en train de faire un retour en arrière. On est en train de s'apercevoir que des produits qu'on utilisait il y a 40 ou 50 ans, voire plus. Ouais.
C'est-à-dire que les maisons à colombage qui étaient faites de mélange de paille et de terre avec...
C'était formidable.
C'était terrible. Quoi.
C'était formidable, mais il n'y a qu'à faire le tour normand. Celles qui étaient là, elles sont toujours là. Je vous dis pas que les maisons à parpaing auront une durée de vie comme celle-là. Il faut être clair. Aujourd'hui, nous, le constat qu'on fait, c'est qu'on peut très bien faire de la construction en bois locaux, alors que pendant des années, on nous a expliqué qu'il fallait aller chercher des bois du Nord. Et donc, la maison de la CAPEB, là où se passe une partie de nos actions éclairs, c'est qu'il y en a que des bois de pays. Donc, ça fonctionne. Donc, effectivement.
Et sur des coûts à peu près équivalents?
Le coût est totalement équivalent. D'accord. On a fait le calcul sur notre maison. On est sur des coûts totalement équivalents. Donc, en fait, nous, on est parti dans un principe où on a essayé les choses. Donc, sur la maison au Causse d'Auge, on a essayé...
Donc une maison test. Hein,
c'est une maison test qui est le siège de la CAPEM et qui est aussi la maison des artisans, où on a vraiment fait le test de savoir si ça fonctionnait. Et aujourd'hui, nous, on constate que ça fonctionne. On constate aussi que les maisons en ERT 2012 ont un coût qui est bien supérieur à ce qu'aurait une maison saine, définie complètement dans ce qu'on est. Mais je vais laisser Lionel ou Rémi continuer parce que c'est eux vraiment les spécialistes. Moi, je fais que la maison, la structure du petit cochon.
Ouais, c'était pas péjoratif, c'est ça.
Non, je plaisante.
C'est une image, mais c'est vrai qu'on est encore un petit peu dans cette imagerie-là, que la maison en paille, en bois, elle est moins solide qu'une maison en parpaing ou en pierre, quoi. Alors peut-être intervenir sur...
Oui, vous parliez tout à l'heure de ce qu'a mené aujourd'hui les constructions en maison saine. Les constructions saines, il y a tout simplement ces problèmes d'allergie qu'on peut contracter aujourd'hui par cet air intérieur qui n'est pas forcément... L'air vicié, oui. Qui n'est pas forcément renouvelé comme il faut. Et puis aujourd'hui, je parlerai pour mon métier... je suis peintre, où on peut déclencher des terrains allergisants.
Donc ça, c'était toutes les peintures au formaldéhyde, ce qu'on appelait les glycéraux, qui étaient...
Il y avait ça, mais voilà.
Les vernis. Hein.
Voilà, il y a tout ça, mais il y a tout ce qu'on amène aussi dans une maison, dans nos achats au quotidien. Ouais,
les tapis.
Voilà, où il y a tout un tas.
Vous parliez, de vernis, tout à fait. Les meubles, etc.
Voilà, vous parliez de formaldéhyde, ce sont des composantes qu'on amène tous les jours dans notre maison.
Très volatile et qui reste en suspension dans l'air.
Voilà, et tout ça, ce sont des choses qui, voilà, on les répatrie, on peut l'éviter justement. On sait que la chaux est très efficace justement sur le traitement de la moisissure, par exemple.
Peindre des murs, par exemple, qui ont été recouverts de plâtre. Quand on construit sa maison avec des badigeons à la chaux ou des peintures à la chaux, C'est très sain.
C'est très sain. C'est très, très sain, justement. La choix a un pH très élevé, équivalent à 13 ou 14. Voilà, donc qui traite les remontées d'humidité par capillarité, par exemple. Hein, ça peut traiter ces échanges gazeux qui peuvent.
Qui permet aussi de faire respirer la maison.
Tout à fait, tout à fait. Alors aussi, aujourd'hui, on va parler aussi des terres crues, des enduits à terres crues qui vont traiter également tout le côté hygrométrique dans une maison. Qui va jouer un réel rôle d'échangeur dans la maison, d'hygrométrie dans la maison.
Et justement, si par exemple, ben voilà, chez moi, je veux faire de la peinture saine, entre guillemets, est-ce que ça va me coûter beaucoup plus cher?
Et où est-ce que je peux le trouver?
Et où est-ce qu'on peut le trouver, effectivement?
Si je vais dans un grand magasin de peinture, est-ce que je trouve ces produits-là?
Ben, en fait, on en arrive aujourd'hui à ce que les artisans, il faut faire appel à un artisan. C'est bien gentil d'aller chercher son pot de peinture à Brico Dépôt ou dans d'autres structures de la grande distribution, mais le conseil derrière, c'est qu'ils vont vous vendre ce que font des industriels. Ce que font des industriels aujourd'hui, la santé publique, ça les dépasse complètement et c'est pas leur problème. Leur problème, c'est de faire du business. Nous, aujourd'hui, la démarche qu'on a, c'est qu'on a formé des artisans et les artisans, comme vous pouvez entendre Lionel, et vous entendrez Rémi, c'est des professionnels, c'est des gens qui ont réfléchi, qui ont fait des études. On est dans une autre démarche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, appeler un artisan, vous pouvez, si vous voulez des artisans comme ça, vous appelez à la CAPEB, on a un potentiel d'artisans formés à ça, ils vont vous amener le conseil et surtout le produit qui va avec. Il faut arrêter de penser que tous les métiers sont duplicables par tout le monde et qu'un artisan est juste un applicateur. C'est aujourd'hui, on a formé des gens qui sont compétents, mais qui sont aussi conscients qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis du client chez qui ils travaillent.
D'accord. Et ça, c'est vraiment. Vous n'êtes pas vraiment pour l'autoconstruction ou ce principe-là, en tout cas, de solidarité entre les gens pour construire des maisons.
Parce que l'artisan,
en tout cas, c'est assez limite pour vous.
L'artisan n'est pas solidaire. Je crois qu'aujourd'hui, en
France, c'est pas ce que je dis, mais
si quelqu'un est solidaire, c'est bien l'artisan. Parce que je peux vous dire que les cotisations sociales d'un artisan aujourd'hui sont bien supérieures à la moyenne. Et que pour faire l'effort et tenir le pays comme on le tient depuis 2 ans dans une crise qui est monumentale, si les artisans en France ne sont pas les gens les plus solidaires qui est, il faut me tenir au courant. On fait du social dans nos entreprises au quotidien. On est quand même les premiers formateurs apprenti en France. On est les seuls qui arrivent à créer de l'emploi en France en période de déficit. Et par contre, on ne parle pas de nous. Donc je conçois. Mais au niveau de la solidarité,
on en parle de vous. Non, mais ma question, elle n'était pas sur la taxe de la solidarité. Elle était simplement qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des budgets, qui ont du mal auprès des banques à débloquer des financements pour acquérir un chez-soi, on va dire, même s'il n'est pas forcément très, très ambitieux et très grand. Entre toutes les taxes, les coûts des terrains, l'installation, des fois, ils sont bien obligés de faire, on va dire, la petite finition, le troisième œuvre, qui va être des peintures, un peu de placo, un peu de machin. Ça leur fait gagner 3 fonds 6 sous, mais en même temps, c'est sûr qu'ils ont besoin à la fois de conseils pour bien mettre en œuvre ces matériaux, pour bien choisir. Donc, vous proposez un peu les deux, c'est-à-dire vous proposez à la fois la possibilité d'avoir un artisan qui vient faire le travail, ou des artisans qui viennent donner des conseils ou former les gens pour qu'ils utilisent les bons produits, enfin, c'est ça?
Je pense que si on conçoit les choses, enfin, moi j'ai des clients à qui j'ai fait les charpentes des maisons, qui viennent demander un conseil pour faire un appartier ou faire le garage à côté. On les conseille, le rôle de l'artisan il est là. Effectivement, si on voit arriver des gens qui font de l'autoconstruction, et encore l'autoconstruction aujourd'hui se définit très différemment puisqu'il y a beaucoup d'autoconstructeurs qui sont des auto-entrepreneurs ou des gens comme ça qui malheureusement eux ne participent pas à l'effort national puisqu'ils cotisent à très peu de choses, ça sera plus compliqué. Mais si demain vous faites faire votre salon ou vos chambres à un artisan peintre, il vous conseillera pour faire les autres pièces de la maison et il vous conseillera les produits à utiliser, mais il fera la globalité de la maison, il va pas vous dire vous pouvez jeter. Mais je crois qu'il faut que les gens prennent conscience que l'habitat c'est source de danger si c'est mal conçu ou si on met les mauvais produits. Et ça, il faut vraiment que les gens s'en rendent compte. Il faut aussi qu'ils se rendent compte.
C'est un investissement à long terme sur sa propre santé.
Sur sa propre santé, celle de ses enfants. C'est bien gentil d'aller acheter des meubles chez Ikea à tour de bras. Posons-nous la question, qu'est-ce qu'on pose sur les meubles Ikea? Non mais personne ne pose la question. Moi, je vous pose la question, qu'est-ce qu'il posait sur les meubles en peuplier de chez Ikea? Voilà, quand on aura fait la définition et l'analyse des produits, peut-être on s'apercevra que si un enfant a des problèmes d'allergie au quotidien, c'est pas obligatoirement de pollen. Le 20 décembre, il n'y a pas de pollen.
Hein, oui, ou c'est les, les voilà. vernis qu'on aura mis sur le sol qui sont
c'est clair.
Chargés,
non, mais voilà. Il faut être clair. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, quand on utilise, on a des produits qui sont formidables. Vous parlez des vernis sur le sol. Aujourd'hui, on travaille des parquets flottants partout. Personne se pose la question. On dit, c'est sain le parquet flottant. Ah oui, ça dépend des parquets flottants qu'on va utiliser. Et ça dépend des parquets. Il vaut mieux un bon parquet traditionnel en pin de pays ou en châtaignier, voilà, avec des produits dessus, exceptionnels et des huiles dures. Lionel est bien placé pour en parler, qu'un parquet flottant qui est kafi de choses totalement chimiques.
Mais alors là, se pose la question, en fait, de qui intervient au moment où les gens décident de construire une maison. Parce que moi, ce dont je m'aperçois, enfin, dans mon environnement, et puis ayant moi-même construit la maison, enfin, en partie avec des artisans et des conseils, en ayant essayé d'apprendre des choses, je suis passé sur ce fameux parquet qui vient de Lozère. Donc j'ai acheté des bois de Lozère, très durs, que j'ai poncé, etc. J'ai mis des huiles dures, je me suis renseigné. Mais ça m'a pris presque un an d'études pour arriver à construire une maison qui soit à peu près saine, avec des huiles, avec des peintures à la chaux, avec etc., etc., etc. Mais tout ce travail-là, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de ça ou qui n'ont pas le temps de ça. Donc comment on peut faire aujourd'hui pour faire en sorte que les gens, quand ils construisent, c'est pas seulement quatre murs avec un parquet, avec une baie vitrée, et voilà, que c'est beaucoup plus complexe une maison et que ça a des répercussions tout au long de sa vie et celle de ses enfants. Donc comment on peut faire une approche, parce que vous êtes en train de dire, mais il faut que les gens se renseignent, etc. C'est vrai, mais en même temps, vous voyez, vous avez des compétences, vous avez été formé, vous avez fait des études, des recherches même pour certains d'entre vous, et que ça prend beaucoup beaucoup de temps. Donc comment on peut faire pour transmettre ça et faire en sorte que quand on fait un dépôt de permis, toute cette chaîne, en fait, ait été un petit peu vue ou traduite en matériaux et en matériaux sains.
Mais si aujourd'hui, on est là pour faire une semaine à construction saine, c'est qu'on s'est aperçu de ce problème-là. C'est qu'aujourd'hui, la seule chose qui est régie vraiment, c'est une étude thermique sur la construction de la maison neuve. À aucun moment, on prend conscience et on évoque à la personne qui va déposer son permis de construire que c'est bien gentil de faire un aquarium, mais dans l'aquarium, ça pose des problèmes. Et ça, c'est clair. Aujourd'hui, nous, la démarche, elle est tout autre que les filières, on va dire, traditionnelles, enfin, peut-être pas traditionnelles, mais industrielles du pavillonneur ou quoi que ce soit. Nous, on est en train de créer une démarche avec des artisans qui ont vraiment envie de s'investir et qui vont proposer autre chose. C'est ça. Et on est en train de s'apercevoir que ce qui était une niche commence à devenir vraiment quelque chose de beaucoup plus intéressant, où on arrive à proposer du chaud-chambre, de la terre crue, et que les gens s'aperçoivent que peut-être à la fin le coût est moindre qu'une maison créée par un pavillonneur.
En tout cas, en fonctionnement, il sera moindre.
En fonctionnement, en confort de vie, en confort d'été comme confort d'hiver, on est dans une démarche qui est totalement autre. Et puis attendez, soyons bien clairs, quand on fait travailler des filières locales, on crée de l'emploi, on crée de la richesse. Il faut s'apercevoir que quand on a un artisan qui cotise dans un canton, on va peut-être avoir une salle des fêtes, on va pouvoir avoir des services, on
ah oui,
va
c'est
pouvoir
la fiscalité
avoir
fiscalité en plus.
Non, mais il faut que les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, il faut financer les temporaires scolaires, il faut financer des choses, mais on préfère aller faire les courses ailleurs. Il faut, nous, on est en train d'expliquer, faites les courses de vos artisans locaux.
La relocalisation, c'est un petit peu ça.
Complètement. Allez, Rémi.
Oui, la relocalisation. Je vais reprendre un petit peu en arrière sur mon sens de la construction saine. C'est tout simplement une maison où on se sent bien dedans sans être obligé de dépenser des fortunes en chauffage ou en climatisation. Les maisons qui sont faites chez les pavillonneurs, on peut y être bien, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il va falloir une climatisation, il va falloir du chauffage supplémentaire, il va falloir tout un tas de choses. Une VMC, c'est super gentil, c'est étudié pour faire sortir l'air vicié d'une maison et faire rentrer de l'air sain et sec. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on a du brouillard où l'air extérieur est à 90% d'humidité? Bien, on fera rentrer 90% d'humidité dans la maison. Et ça, c'est le moins dangereux, parce que si on est en zone Céveso, on va faire rentrer toute la pollution qui risque d'y avoir à l'extérieur. Et quand on est en zone où il y a des particules fines, comme en ce moment sur Paris ou sur Lille, qu'est-ce qui rentre dans les maisons? C'est de l'air avec des particules fines à l'intérieur.
De l'air vicié, quoi.
Donc, voilà, nous, ce qu'on veut essayer de faire comprendre aux gens, c'est que quand on ne peut pas faire autrement, la VMC, ok, mais on peut faire autrement. Et justement, la maison des petits cochons, on pouvait faire autrement. Le problème, c'est que les petits cochons, les deux premiers, n'avaient pas fait des formations. Et s'ils avaient pris le temps de travailler correctement et d'employer les matériaux en respectant des règles professionnelles comme nous le faisons à la CAPEB, il n'y aurait pas eu le problème. On n'en parlerait pas. Si le troisième petit cochon n'avait pas pris le temps de mettre du mortier entre ses briques, la maison n'aurait pas plus tenu que la maison en bois ou que la maison en paille. Donc si le matériau n'est pas incriminé, ce qui est incriminé, c'est l'absence de formation de ces petits cochons. Et moi, j'invite pendant ces trois jours de construction saine à la CAPEB, hein, j'invite le maximum de personnes à venir voir ce que sont capables de réaliser des artisans formés sur place, aussi bien à Mende pour la construction paille ou la chaux dans tous ses états, qu'à Saint-Étienne-Vallée-Française sur le béton de chambre.
Est-ce que vous pouvez justement nous en parler un peu plus de ce programme? Est-ce que c'est un programme destiné aux professionnels? Est-ce que c'est un programme destiné aux particuliers, aux novices? Est-ce que moi, je peux venir, même si j'y connais pas grand-chose? Est-ce qu'on va toucher la chaux? Comment ça va se passer?
C'est ouvert absolument à toute personne qui s'interroge sur sa maison, la maison qu'il veut construire ou la maison qu'il habite. Toutes ces personnes peuvent venir poser des questions aux professionnels qui seront sur place, et toutes ces personnes pourront éventuellement, s'ils le désirent, appliquer un badigeon de chaux, appliquer un enduit de décoration, appliquer de la terre crue sur la paille, nous aider à peser les ballots de paille pour le redimensionner en fonction de leur taux d'humidité intérieure et tout.
Donc ce sera sous forme d'atelier pour la plupart.
Quelle que soit la personne qui vient, qui veut participer, il n'y a pas de problème, on lui mettra les outils entre les mains, une combinaison de travail s'il ne veut pas se salir, et on le fera participer. C'est pas...
Alors, ça va se passer mardi 26 mai, c'est ça?
Le mardi 26 mai, c'est dédié à la paille, à la terre crue et au bois. Le 27 mai, c'est dédié à la chaux.
Parce que dans tous ces états.
Ouais. On ne connaît pas assez toutes les qualités, toutes les capacités tout de ce faire, produit. Ouais. Hein. Ouais. J'entends souvent dire que la chaux n'est pas un matériau suffisamment solide. Ce à quoi je réponds, la cathédrale de Mende a été bâtie avec de la chaux. Le ciment existe depuis 1827. Tout ce qui s'est fait avant, ça s'est fait à la chaux. Et ça tient encore debout. Et puis le 28, ça sera axé sur le béton de chambre.
D'accord.
Donc ce sera maison des artisans les deux premiers jours. Et le troisième jour, ce sera délocalisé, c'est ça?
Ce sera délocalisé sur Saint-Étienne-Vallée-Française. Parce qu'il y a une commune qui a fait le choix de matériaux sains pour construire la maison des services, qui va recevoir des docteurs, des kinés et autres infirmières.
D'accord. Donc là, vous présentez des ateliers de 9h à 11h, ce que je lis, hein, et de 14h à 17h, donc trois ateliers en parallèle et complémentaires. Un sur un remplissage de pans de bois avec de la paille, donc pour voir comment ça fonctionne et qu'on peut le faire. Voilà. Préparation, application d'enduit en terre crue, démonstration et application de décor à la chaux. Donc c'est monsieur Alain Tournier qui anime ces ateliers.
Monsieur Tournier anime l'atelier terre crue.
D'accord, terre crue. Monsieur Rémi Chorda,
c'est la paille.
D'accord. Et puis monsieur Lionel Ronzier. D'accord. Ce sera la peinture.
Tout à fait.
Tout ce qui est à base de badigeon, peinture, tout ça. D'accord. Et de 11h à 14h aussi, on a la présentation de peinture organique destructive de formaldéhyde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots-là? Destructive de formaldéhyde labellisé TUV.
Et voilà. Mais aujourd'hui, les peintures industrielles également ont fait aussi un grand pas en avant. Et aujourd'hui, ils ont mis au point une peinture qui a la capacité de capter tous les ces fameux formaldéhydes qui sont dans l'air.
Ce sont des molécules, en fait.
Des molécules. Alors là, ne m'en demandez pas plus parce que je ne suis pas chimiste, je ne suis pas. Voilà, c'est.
Un peintre qui n'est pas chimiste.
Enfin, vous m'avez eu. Et voilà, ça, je ne connais pas les compositions, ce sont des...
Oui, oui. Alors par contre, sur les peaux, souvent maintenant, on voit le COV, c'est ça?
Voilà, les COV. Hein,
COV.
Aujourd'hui, ben justement aussi...
C'est très très mal connu du grand public, parce que les gens, ils achètent des pots de peinture, ils ne savent pas du tout ce qu'il y a dedans. L'émission, toutes ces molécules qui restent en suspension dans l'air... C'est le COV qui détermine un petit peu la qualité.
Entre autres, hein, COV, composant organique volatile. Hein. Aujourd'hui, on trouve très facilement des peintures justement qui ont moins d'un gramme par litre de COV. Hein. Une peinture, c'est aussi comme un ciment, comme un plâtre, ça a un temps de séchage. Hein. Et il faut savoir que c'est au bout de mois, à peu près un mois, qu'elle atteindra son maximum de solidité et qu'elle se sera dégazée au maximum.
D'accord. Voilà. Donc, en fait, quand on lit sur un pot, on peut savoir si c'est une peinture très émissive ou pas trop émissive.
Aujourd'hui,
il vaut mieux choisir des peintures très peu émissives.
Voilà, tout à fait.
Dans le COV est le plus bas possible.
Complètement.
Alors, vous conseillez les gens là-dessus
Pas du tout sur votre atelier. Aujourd'hui, sur l'atelier, je vais le faire. Mais aujourd'hui, moi, dans mon entreprise, ça fait très longtemps qu'on utilise ces produits à faible émission. Parce que nous, les peintres, il ne faut pas oublier que. On a la tête dans le pot à longueur de journée. Donc, il faut penser à notre santé, à nous également.
Est-ce que c'est lié aussi à l'odeur de la peinture ou pas du tout? Souvent, on disait « Ouais, cette peinture, elle sent très fort, il y a beaucoup d'émissions. » Ou est-ce que le fait qu'une peinture ne sente pas, est-ce que c'est lié au COV ou pas du tout? Des fois, on se pose cette question-là.
Je me pose également la question, mais aujourd'hui, on sait qu'ils parfument les peintures également. Donc, ils ajoutent des parfums dans les peintures, justement, pour que ça ait une odeur de peinture. Donc, on reconstitue des effets. Donc, voilà, il y a un gros effet psychologique.
Si ça ne sent pas, ça ne sent pas.
Il y a toujours quelque chose. Alors, dans le marketing,
D'accord. Bon, il faut démystifier tout ça. En tout cas, ça, c'est tout à votre honneur, parce que c'est vrai que c'est un monde qui est complexe. Énormément de domaines, on vient de le voir, que ce soit sur les matériaux, la connaissance, puis aussi la façon de les mettre en œuvre.
Voilà.
Et les bons choix en fonction de l'endroit où on vit.
Tout à fait. D'autant plus qu'une peinture a pour effet quand même, de protéger un support. Hein. Pour moi, c'est le but premier. Le deuxième but, après,
c'est l'embellir.
C'est le côté harmonie de couleur, dans lequel, un peintre aujourd'hui doit être à même d'amener ce type de...
Ce
service, voilà.
C'est plus une question. À l'heure où, actuellement, on prend de plus en plus conscience, on fait des prises de conscience par rapport à l'écologie, justement, par rapport aux constructions saines, est-ce que vous avez constaté, vous, un engouement des particuliers pour ces nouvelles méthodes ou pas forcément, depuis quelques années?
Alors il y a une vraie, c'est vrai que sur la partie peinture, c'est un travail qu'on lance depuis un an, et Lionel est investi là-dessus. Là où on a une vraie évolution, c'est sur l'isolation en chaux-chambre. Ça s'explique par plusieurs choses. La première, c'est que le chaux-chambre, il y a une vingtaine d'années, était ressorti, on va dire, des cartons, mais ça a été plus ou moins abandonné par rapport à des problèmes d'hydrométrie. C'est-à-dire que comme on faisait la chaux à la bétonnière, on rentrait des taux d'humidité qui étaient très lourds. Donc on n'arrivait plus à faire sécher les maisons derrière. Aujourd'hui, si vous venez le 27 mai, vous allez vous apercevoir que l'équipement n'est plus le même. Il faut un investissement de pas loin de 30 000 euros dans la machine pour arriver à faire du chaux-chambre. Si on veut de la qualité, bien sûr, on peut projeter, faire la bétonnière, on peut faire de l'autoconstruction, mais là, aujourd'hui, le chaux-chambre, pour avoir une qualité exceptionnelle, il y a une cardeuse, cette cardeuse est poussée par un compresseur, et derrière, on a une machine qui travaille la chaux, mais qui travaille la chaux à des taux d'humidité très faibles. Donc on projette le tout, pour pas que ça reste. Donc on projette, la machine projette tout à la fois. Donc on peut aller sur des charges, Rémi me dira, jusqu'à 20 cm, on a vu, voire plus de charges.
Ah oui, d'accord.
En 30 cm de charge en une seule passe.
En un seul passage, et on ne rentre pas trop d'humidité. Donc en fait, ce produit, qui était un produit qui était totalement sorti, on va dire, des filières, devient aujourd'hui un produit qui peut être utilisé dans n'importe quelle maison, et qui permet de noyer les gaines électriques dedans, d'avoir une finition qui est exceptionnelle et qui s'adapte à des murs qui sont pas loin, et qui va permettre de rénover une grosse partie des bâtiments du département. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est en train de rentrer vraiment dans les mœurs, et on a énormément de la demande. On a 2-3 entreprises qui ont investi dans le matériel et qui travaillent avec.
Oui, la demande est grandissante. Ce qui s'est passé jusqu'à présent, surtout en Lozère, c'est qu'il y avait de la demande, mais il n'y avait pas d'applicateur. Donc les gens se retournaient vers des matériaux conventionnels. Maintenant, il y a des applicateurs formés et il y a de plus en plus de demandes. Et ça n'a pas fini d'évoluer, même au niveau national, puisque Tout à l'heure, Jean-Michel parlait des réglementations thermiques 2012-2020. En 2020, ça s'appellera plus la RET 2020, ça s'appellera la RBR, c'est-à-dire réglementation bâtiment responsable. Et dans ces études de dépôt de permis de construire, on va prendre en compte l'avant, le pendant et l'après. Et dans l'avant, il y a l'énergie grise des matériaux, c'est l'énergie qui est nécessaire pour fabriquer un matériau.
Qui sera pris en compte.
Qui sera pris en compte. Juste un petit exemple, pour fabriquer un mètre cube de chaîne de vote, il faut 6 kW. Pour fabriquer un mètre cube de laine de verre, il faut 280 kW. Oui. Donc tout ça, ça va être pris en compte en 2020 et ça, ça va dans le bon sens pour l'environnement.
On parlait des clients, des particuliers. Est-ce qu'il y a des professionnels qui font appel à vous pour construire leurs locaux ou rénover leurs locaux ?
On a beaucoup de professionnels en ce moment qui sont en train de revenir, surtout chez les plaquistes, du placo jeté au mur avec des rails, à s'apercevoir qu'il vaut mieux travailler de la chaux et du chanvre pour être d'abord dormir mieux vis-à-vis de ce qu'on propose à ses clients et deuxièmement avoir un autre état d'esprit parce que le travail est beaucoup plus intéressant et on fait des choses qu'on peut pas faire avec du placo. Donc il y a vraiment une démarche de ce côté-là sur les plaquistes et ils le font aussi parce qu'ils ont de la demande chez les particuliers qui s'aperçoivent que on peut dynamiser. Mais le plus gros des clients sur le département, ce sera le département lui-même et toutes les collectivités. On a un potentiel de travaux en économie d'énergie qui est énorme au niveau du département. Il faut peut-être arrêter de construire des bâtiments nouveaux et puis s'apercevoir que en donnant des petits marchés des entreprises locales, on arrive à créer une richesse. Ça évitera de faire entrer des entreprises des quatre coins des départements limitrophes ou des quatre coins de la France. Donc on est en train de travailler avec le département aussi sur les économies d'énergie dans les bâtiments publics.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème sur les fournisseurs de matériaux ? Parce que la dernière fois, on a eu une petite émission là-dessus, et en fait, on voit aussi que les fournisseurs de matériaux ne font pas un véritable effort pour vendre ce qui pourrait être, on va dire, entre guillemets, développement durable, en tout cas, respect, et puis produits locaux. Est-ce qu'il n'y a pas une vraie démarche à avoir auprès, une vraie pression à leur mettre auprès de ces fournisseurs de matériaux ?
Vous l'aurez pas. Un des grands marchands de matériaux aujourd'hui, c'est Point P. Point P est une filiale de Saint-Gobain. Donc il faut pas s'attendre à ce qu'ils vont vendre autre chose que de la laine de verre ou de la laine de roche. Les marchands de matériaux, ils sont pas dans cette démarche-là. Nous, aujourd'hui, on est plus dans une démarche où Rémi travaille avec les Chaux Balthazar, qui sont vraiment une entreprise qui a envie de développer sa filière, mais qui va au-delà du simple commercial. C'est qu'il y a une vraie étude chez eux, il y a un vrai travail avec les artisans, parce qu'ils savent le potentiel qu'il y a. Et puis, je pense qu'il faudra qu'on ait une discussion avec le milieu agricole aussi, parce que le chanvre, aujourd'hui, peut être produit dans la région, et pourrait créer une vraie filière vis-à-vis de...
C'est produit du côté de Clermont, non ? Il y en a une partie, je crois, non ?
C'est produit partout en France, le chanvre. Et là, on a des agriculteurs gardois qui font une production de chanvre. D'ailleurs, le 28, seront présents à Saint-Étienne-de-Laye-Française pour présenter leurs produits. Ils ont mis en route une ligne de fabrication de produits aux normes bâtiments. Et donc, on peut avoir du chanvre maintenant qui provient du Gard. Donc, on ne peut pas le chercher très loin, quand même.
Ben non, mais c'est bien. Hein. Alors, donc, il y aura une journée, quand même, deux jours, un petit peu, sur la chaux et le chanvre. Hein. Le mercredi 27 mai, le jeudi 28, plutôt, sur ces moyens de construction. Chanvre et chaux, donc, de 10h à 16h30, avec visite du chantier de la maison des services de Saint-Étienne de Vallée Française. Et puis, le 27 mai, à partir de 10h aussi, toute la journée, démonstration du produit, de ce que c'est que la chaux, comme on peut l'utiliser, sous ses différentes façons. Voilà.
Oui, et puis on va la fabriquer.
Et vous la fabriquez aussi.
On va la fabriquer le 27 mai avec la cuisson.
D'accord.
Bon, très bien.
Merci. C'est un gros programme. Ouais. En tout cas, merci de faire tout ce travail à la fois pédagogique, de sensibilisation, parce que c'est vrai que si vous, les artisans, vous ne mettez pas en œuvre, c'est pas les fabricants de matériaux ni d'autres qui le feront à votre place. Donc c'est bien de vous approprier en tout cas ce domaine et de continuer dans ce travail-là.
Je pars du simple principe que j'ai 4 petits-enfants et que je vais leur laisser quelque chose de fréquentable derrière moi, parce que moi, mon avenir est derrière moi. Hein. Quand j'avais 25 ans, j'étais un artisan ciment, aglo, béton, laine de verre. Et puis voilà, ça m'a passé. Tout le monde fait des bêtises, tout le monde fait des erreurs, tout le monde peut essayer de faire le mieux possible.
Après, on a été On a été, voilà, on a été
poussé par les milieux industriels, voilà, aussi. Ça, il faut,
donc,
pas.
Il faut sortir de
donc on est en train de sortir totalement de ça, voilà, avec des gens formés.
Et puis redire à nos auditeurs que n'ayez pas peur, c'est pas forcément plus cher. Renseignez-vous, prenez le temps, parce qu'une maison, c'est fait pour votre vie en général. Donc il faut aller les rencontrer, même si après vous faites pas affaire. Mais en tout cas, allez les rencontrer, parce qu'on apprend énormément de choses. Et ça permet de faire de meilleurs choix, en tout cas sur une durée de vie qui est quand même assez importante.
En sachant qu'au niveau, bon, on est sur la semaine de la construction de scène, mais par contre, la maison des artisans est ouverte à l'année. On a des salariés qui sont là-haut, qui vous feront visiter et qui vous montreront la totalité des choses.
Donc voilà, venez le 26, 27 et 28 mai, donc à cette semaine spéciale sur la construction scène. En vous remerciant, messieurs, on va faire une petite pause musicale.
Merci à vous.
FM Le Mag.
Et voilà, nous sommes de retour dans ce mag, et après avoir parlé construction saine, nous allons donc parler solidarité.
Passionnant,
avec
la construction.
Oui,
Tout à fait.
J'ai pas eu trop le temps de parler, mais j'ai plein de questions, mais je les poserai tout à l'heure, c'est pas grave.
On a fait toujours quand même Julien, non?
Oui, mais ouais. j'ai le droit d'avoir d'autres questions que les 10 000, Nicolas. Non.
Tout à fait, tout à fait.
Donc, on va parler maintenant solidarité, notamment avec l'association La Traverse et Patrice Bled, le directeur, et ainsi que Arnaud Lyotard, le directeur adjoint. Voilà, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter un petit peu cette association, les missions, comment elle fonctionne, etc.
Très bien, je vous remercie de nous avoir invités. Donc, cette association, La Traverse, existe depuis 1981. Qui était un peu au départ dédié plutôt pour les sortants de prison, et puis petit à petit, au fil des années, et en fonction de la confiance que nous avons eue avec les administrations locales, elle s'est développée pour arriver maintenant à proposer un peu 11 structures bien différentes, et pour lesquelles répond à des besoins au niveau des personnes vulnérables. C'est-à-dire que nous participons au secteur, ce qu'on appelle AHI, accueil, hébergement, insertion, pour lesquels nous devons héberger des personnes en difficulté, de la vie diverses et variées. Donc les différents services. Donc je rappelle que notre association aussi est aussi présidée par Monsieur Alain Bas, président depuis 13 ans, qui va bientôt nous quitter, et j'espère on va retrouver quelqu'un d'aussi compétent. Voilà. Et grâce un peu à l'action de ce président et des administrateurs qui opèrent toujours, l'association a pu survivre. Je rappelle qu'il y a 3 ans, nous avons donc fait une opération fusion-absorption entre 2 associations, et la chose n'était pas si facile que ça. Et heureusement, il y avait des administrateurs qui étaient à la hauteur à l'époque pour relever le défi.
C'est donc Yvonne Malzac, c'est ça, et...
Bah, anciennement, c'était l'association Yvonne Malzac, voilà. Mais c'est une ancienne histoire, puisque il y a 15 ans, peut-être, ils en faisaient qu'une. Après, ils se sont séparés à la demande des autorités locales pour mieux se remarier au jour d'aujourd'hui. Bon, pour l'instant, le mariage réussit doucement.
Et donc, ça donnait des petits. Vous nous parliez de la structure, c'est
donc, ça si vous voulez, je vous parlais des sortants de prison. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est toujours un travail qui est fait avec les sortants de prison. Mais là, dans le cadre du CHRS. Alors, c'est quoi un CHRS? C'est un centre d'hébergement et des réadaptations sociales qui est situé 12 avenue de la Gare au jour d'aujourd'hui. Et dans le cadre des sortants de prison, nous avons un accueil dans un appartement dédié à des personnes sortant de prison qui ont besoin d'avoir un soutien aussi bien...
Pour se réinsérer, quoi.
Voilà. Bon, et rebondir un petit peu en fonction des relations qu'ils ont pu avoir. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, l'association La Traverse, c'est aussi la gestion du service 1015. Hein, si vous vous retrouvez dans la rue pour X raisons, vous pouvez de n'importe quel téléphone faire le 115 et vous allez donc arriver chez nous, à l'association La Traverse, et on va vous guider pour vous accueillir le soir même dans des accueils en appartement, 12 avenue de la Gare, qu'on appelle accueil d'urgence un peu du soir. Hein. Nous avons donc aujourd'hui...
Et ça, c'est toute l'année ou c'est juste un peu
365 jours.
D'accord.
24 heures sur 24.
D'accord. Voilà. Ça, c'est important de le dire, parce que c'est un service qui est rare.
Nous fonctionnons en équipe éducative la journée et des surveillants de nuit aussi qui prennent le relais durant la nuit. Hein. Donc le service 115 va vous écouter, va vous orienter. Donc il y a d'autres accueils d'urgence qui peuvent se faire dans le département, mais on va vous guider vers nous. Ensuite, vous arrivez en 115, vous êtes logé donc la nuit. Le jour, il faut aussi, pour exister, être aussi
épaulé.
Hein. Donc nous avons un accueil de jour qui est pas très loin de chez vous, puisqu'il est cette rue du Torrent, là, où toute la journée, deux éducateurs sont là. Hein. Je rappelle que dans toute l'association, nous n'avons que du personnel diplômé. Hein. On reste.
Il y a combien de personnes aujourd'hui sur ce
26 personnes et 26, 24 d'accord. ETP. Il y a 30 ans, il y avait que 3 ETP. 1 500 000.
1 500 000 voilà. Euros et 26 personnes.
Hein, 26 personnes, voilà. Donc, je dis deux mots par rapport justement aux finances et aux financeurs, hein, puisque notre
financement... Oui, comment ça marche en fait ce financement de La Traverse? Donc là, il y a des fonds publics, j'imagine.
On fonctionne à 95% avec des fonds publics. La Fondation Abbé Pierre nous soutient pour un service spécifique qui est le service Ravel, le réseau d'aide aux victimes en Lozère. C'est un service d'aide aux victimes toute personne, tout citoyen, autre qu'une personne vulnérable, peut s'adresser à nous. Quand vous allez donc à la gendarmerie porter plainte, vous verrez dans le dépôt de plainte, nous sommes repérés, le Ravel, qui est intégré donc à l'association de la Traverse, est là pour aider toute personne liée à des soucis, étant victime de fraude bancaire, téléphone, crédit de bail, enfin, etc., etc. Voilà. Donc nos financeurs sont principalement la DDD-CSPP, la Direction départementale de la cohésion sociale et la protection de la population. Ça c'est vrai, c'est plus de 80% voilà, pour tous nos services. Nous sommes aussi un peu aidés par le cœur de Lozère, qui nous subventionne quelques actions.
La communauté de communes.
La communauté des communes, oui. Nous sommes aussi subventionnés par le département. Le conseil départemental, voilà. Nous recevons quelques fonds par rapport au ministère de la Justice. Voilà.
D'accord, par rapport à la partie...
Elle est victime, où on peut faire aussi la médiation pénale, le contrôle judiciaire, etc. Donc je vous disais tout à l'heure dans ma petite histoire, vous êtes à la rue, vous téléphonez le 115, on vous accueille la nuit, on vous accueille le jour. Bon, cette situation va durer un certain temps. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il faut... suivant la personne, suivant son besoin, sa volonté aussi de se mettre un peu de contrainte, parce que c'est pas évident quand on a vécu dans la rue, qu'il faut accepter les murs, tout simplement, le silence, respecter son intérieur, le voisinage, etc. Et suivant ses moyens, son désir, on va proposer à cette personne différents types d'accueil. Bon, ça peut être ce qu'on appelle les ALT, c'est des appartements avec un logement qui va être plutôt temporaire, qui va être meublé, donc vous allez pouvoir investir un petit peu. Mais vous pouvez aussi avoir besoin d'un soutien plus important. Donc nous avons deux maisons relais dans Mende, d'une capacité donc de 20 places et 10 places, où là on peut vous proposer un appartement, mais pour une durée indéterminée. Voilà, avec un accompagnement socio-éducatif toute la journée.
Donc là, vous avez des travailleurs sociaux qui interviennent auprès de ces
oui,
gens-là.
Il y a deux animateurs socio-culturels qui sont dans cette structure.
D'accord. Voilà. Et des AS, non? Vous n'avez pas d'AS?
Non, il n'y a pas d'assistante sociale.
Et vous travaillez
non.
avec...
On a énormément de travail de partenariat aussi avec le conseil départemental, ouais. mais avec des structures plus en lien aussi avec les troubles psychiques que peuvent avoir nos bénéficiaires ou troubles de santé. Donc la passe à l'hôpital, l'AMPA, les CMP, voilà.
D'accord, c'est tout à raison.
Vous étiez donc présent sur Mende, enfin vous êtes présent sur Mende dans des maisons relais, vous étiez aussi présent au Blémar, c'est toujours le cas?
Non. D'accord. Non, le Blémar a été supprimé en 2013, c'est un service qui était déficitaire, voilà. D'accord. Donc les financeurs principaux se sont retirés, financeurs qui étaient le conseil départemental et également l'ARS. Qui pensait que, vu la sous-activité de ce service, il était bon de se séparer. Donc, et nous sommes séparés également d'un autre service qui était la ressourcerie à Langlade.
Ah, oui,
parce que toutes ces gens qui sont en difficulté, au bout d'un moment, ils ont envie de retourner dans le monde du travail, mais ils ne sont pas en capacité d'accepter les contraintes du travail. Donc c'était une réadaptation, un petit peu, au quotidien, mais avec une charge de travail beaucoup moindre que lorsque vous signez un CDD ou un CDI normal, quoi. C'était plus en lien
adapté,
avec les personnes.
Ouais.
C'était adapté. Voilà. Je continue aussi dans nos activités. Nous proposons aussi un CHRS, donc 12 Avenue de la Gare, où nous avons...
Qu'est-ce que c'est un CHRS?
Centre d'hébergement et de réadaptation sociale, comme
d'accord.
je disais tout à l'heure,
d'accord.
le 115, tac-tac. Donc là, vous êtes dans un logement...
Parce qu'on s'y retrouve pas du tout, les gens...
Mais oui, mais c'est à la carte, vous voulez. Nous, les travailleurs sociaux, on s'y reconnaît, parce
et
que
j'essaie.
On voit
non,
et on compose avec les personnes.
Mais
c'est un vrai jargon, hein, c'est vrai.
Oui, je sais bien, on fait tout ça. C'est
mais ça. On écoutait les artisans tout à l'heure aussi, dans les produits, les peintures. Bon, on ne connaît pas, on écoute. Bon, il faut un peu d'ouverture et puis écouter l'autre. Quoi. Donc, dans ce fameux CHRS, nous avons également donc 16 places en CHRS, où la personne, elle peut s'investir entre 6 mois et 1 an et demi. Voilà. Où on lui demande une petite participation au logement, dans le prix du coût du loyer, et nous l'aidons aussi à se refaire, à se reconstruire pour mieux rebondir après.
C'est voilà. un suivi individualisé?
Oui.
D'accord.
Oui. C'est le seul établissement, parce que c'est un établissement, le CHRS, où on est soumis à des réglementations, comme faire une évaluation externe, une évaluation interne. On a un budget. Alors, si vous voulez, sur tous ces services, le CHRS a un budget maintenant de 400 000 euros. Hein, c'est le seul établissement qui a donc une dotation globale avec des versements mensuels. Voilà. Tous les autres services vivent de subventions. Et qui dit subvention dit arriver dans la structure suivant le bon vouloir des autorités locales ou voire régionales plutôt, puisque maintenant tout notre secteur est géré par la région, quoi. Mais au département, ils se font défenseurs de notre cas. Voilà. Et j'en profite pour remercier aussi les services de la DSPP à l'heure actuelle, qui nous ont aidés aussi à remonter la pente en prenant en considération les difficultés financières que nous avons eues dernièrement. Ils ont pu réévaluer aussi bien notre fonds de roulement que les subventions de certains services. Nous avons aussi, pas très loin d'ici, des jardins et ruchers solidaires. Pour certaines personnes qui sont au RSA ou d'autres personnes hébergées dans le CHRS, ils ont besoin aussi de retrouver une certaine identité. Et le travail de la terre leur permet aussi d'avoir une identité, d'être éco-citoyen, de répondre aussi à des demandes.
De reprendre une place, c'est ça ?
Voilà, de reprendre une place, mais également de produire eux-mêmes et de donner aussi. Voilà, il y a ce rôle très important et d'échanger aussi. Voilà. Et depuis 2 ans, nous avons pu avoir des financements par une structure privée qui est la FNARS pour mettre en place 3 petites ruches. Donc on a un petit rucher et nous produisons un petit peu de miel.
Et comment s'appelle ce miel ?
Le miel la traverse.
D'accord.
Il n'y a pas de nom.
Il n'y a pas de nom. Bon, faudra chercher un nom, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. Oui, oui. Donc je vais laisser la parole après à M. Lothar qui va présenter autre chose. Je vous ai parlé également du service juridique Ravel, hein, qui est aussi très important, qui a plus de 10 ans maintenant dans la structure, qui est donc deux juristes à temps plein travaillent dans ce service. Nous faisons également des POP. Alors c'est quoi une POP ? C'est une permanence d'orientation pénale du département. C'est un certain nombre de salariés qui répondent présents 24 heures sur 24, 365 jours, pour aller rencontrer des personnes ayant commis, fait des bêtises, si vous voulez, donc ils sont en garde à vue. C'est à nous d'aller les rencontrer pour établir une petite synthèse de leur situation et présenter au magistrat avant qu'eux-mêmes comparaissent devant le magistrat. D'accord. C'est bien le substitut d'accord. que le
procureur. En fait, vous avez énormément d'actions, d'activités qui sont très très mal connues. Bon, ben d'abord, parce que c'est très spécifique sur un pays particulier. Tout ça, c'est financé par les impôts, donc merci.
Tout à fait.
Merci l'État et merci la contribution citoyenne. Oui. Parce que ça, c'est important. Souvent, on se dit, mais bon, on paye trop d'impôts, etc. Mais souvent, dans nos émissions, on rappelle que toutes ces actions derrière, 26 salariés, donc c'est pas rien, 1,5 million d'euros, tout ça, c'est un réinvesti sur Pôle local parce que les gens vivent ici, donc payent aussi leurs impôts. Donc tout ça, c'est très intéressant parce que c'est l'économie, mais fait avec un service au public, avec des conventions et je pense aussi des bilans et des contractualisations qui ne vont pas être très très simples au niveau administratif. Je pense qu'il y a un gros travail administratif et que tout ça, c'est très transparent.
Ah, il y a une totale transparence.
Donc on peut avoir accès aux comptes.
Bien sûr.
Tout ça, c'est visible et que c'est une association.
Nous avons un expert comptable et un commissaire aux comptes. D'accord. Et les comptes sont élaborés aussi en assemblée générale qui aura lieu cette année, le 18. Et je voulais rajouter, avant de passer la parole à mon collègue, que nous avons aussi un service HUDA, hébergement d'urgence de demandeurs d'asile. Comme vous le savez, comme vous pouvez le voir aussi à l'extérieur, que nous avons un flux migratoire. Ouais, et que le département de Lozère a été sollicité pour répondre à ce flux migratoire.
Voilà. Donc, et que tout ça, c'est géré et qu'il n'y a pas d'inquiétude d'avoir.
Je laisse la place à mon collègue.
Oui, ben, bonjour et merci pour votre invitation. Donc Arnaud Lyotard, directeur adjoint de l'association La Traverse. Voilà, en ce qui me concerne, donc là, on a fait dans une première partie une présentation rapide des différents services de l'association La Traverse. Où on voit quand même tout le sens entre les différentes activités et les différents services et la complémentarité pour répondre au mieux et au plus près aux besoins et attentes des personnes accueillies.
Justement, juste une petite question à ce sujet. Combien à peu près de personnes accueillies en période hivernale ou en période estivale par jour, par exemple ? Ou sur l'année, combien de personnes vous aidez ?
Alors, c'est assez compliqué pour vous donner un chiffre précis, parce qu'il faut vraiment savoir de quoi on parle, de quel service, etc. Moi, ce que je peux vous dire à l'heure d'aujourd'hui, c'est que l'association La Traverse, c'est environ 70 logements. Sur l'accueil de jour à l'année, c'est combien de passages ? J'ai plus le chiffre en tête, mais il est très important. C'est entre 400 et 500 passages, je crois, à l'année, sur rien que le service de l'accueil de jour. Voilà.
D'accord.
Donc après, plus précisément, moi je voulais profiter de l'invitation pour vous parler de la journée du jeudi 11 juin 2015, qui s'intitule la journée donc un chez soi d'abord, qui aura lieu du coup à l'IUP de l'antenne de Mende. C'est une journée qui est organisée par les services donc de la DDCSPP, donc je rappelle nos sigles, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, donc organisée par la DDCSPP, et la Traverse, bien entendu en lien avec les associations membres du collectif SIAO 48, donc l'association Alter à Marvejols, l'association Quoi de Neuf à Florac et le CIDFF qui est implanté sur la ville de Mende. Donc, pour rappeler aussi et faire du lien aussi avec l'association La Traverse, quand on parlait de nos missions, moi j'ai envie de dire que l'une de nos premières missions, c'est la lutte contre les exclusions, voilà, des personnes les plus démunies. Donc cette journée aussi, pourquoi cette journée ? On se rend compte, notamment en France et en Lozère, que malgré, vous avez vu, la multitude de services et d'activités que l'on propose, un certain nombre de personnes très démunies, très désocialisées, très en difficulté sociale, du coup, ne correspond pas encore à nos services.
Ou ne bénéficie pas, en tout cas, de vos services, c'est ça ?
Voilà.
Ça, vous expliquez comment ?
C'est des personnes très désocialisées, très marginalisées, qui ne sont pas en capacité actuellement de faire le pas, de venir franchir la porte de la Traverse.
C'est un problème de démarche ou de conscience, c'est ça ?
Oui, et j'ai envie de dire de parler de difficultés et aussi de santé mentale aussi pour la plupart, c'est-à-dire personnes qui souffrent de troubles psychiques, ouais. Puisque à l'heure actuelle, je peux vous rappeler un chiffre, c'est qu'une personne sans domicile fixe sur 3 souffre de troubles psychiques. Voilà. Donc ça, c'est aussi important de le rappeler, avec un manque de repères spatio-temporels, etc. quoi. Donc, ces personnes-là, ben, nous, on les rencontre à l'association La Traverse, du coup, non pas dans nos locaux, mais à l'extérieur de nos locaux et dans le cadre aussi de nos maraudes que nous réalisons tout au long de l'année. Les maraudes sont renforcées durant la période hivernale, mais on en réalise aussi tout au long de l'année, comme je viens de dire. Donc ces personnes-là qui ne viennent pas vers la Traverse, c'est à nous, professionnels, travailleurs sociaux, d'aller à leur rencontre dans leur squat ou dans la rue carrément. Quoi.
Vous avez recensé le nombre de personnes qui seraient considérées comme ça, peu en marge ?
Actuellement, pour vous donner une idée, nous, les maraudes, on les réalise principalement sur le bassin de vie de Mende et ses alentours, donc Badarou.
Sur la communauté de communes.
Voilà, on va dire ça, voilà. Et on a pu repérer une dizaine de personnes, là, actuellement, qui seraient. Voilà. Donc, je reviens quand même à cette journée, un chez soi d'abord. Donc, du coup, on se rend compte que des personnes, malgré tout ce que l'on propose, ne se saisissent pas de tout cela. Et du coup, un chez soi d'abord, c'est quoi ? C'est de proposer sous la forme de logements alternatifs, donc soit dans des caravanes, soit dans des mobilhomes, de proposer à la personne, en premier lieu, d'abord la mettre à l'abri, et après de construire les choses à partir du moment quand elle est à l'abri. Voilà. Souvent, dans le cadre
de repenser leur projet de vie, c'est ça un petit peu ?
Voilà, c'est ça.
Ou de penser à leur projet de vie.
Penser.
C'est ça, de le penser. Mais déjà, premièrement, c'est mettre la personne à l'abri dans un logement alternatif pour après construire à partir de là.
Et autonome.
Et autonome, tout à fait. Voilà, donc ça, en fait, c'est un programme et c'est des idées qui ont déjà émergé il y a quelques années du côté des États-Unis, qui arrivent en France, puisqu'il y a eu des expériences dans des grandes villes comme Marseille, Toulouse et Lille. Et du coup, c'est d'amener un petit peu cette expérience et cette réflexion sur le département de la Lozère. Donc, du coup, il y aura...
Et ça s'adresse à qui, alors, du coup, cette journée spéciale sur un chez soi d'abord ? Ça s'adresse à qui ?
Ça s'adresse donc à l'ensemble du public et bien entendu à nos partenaires privilégiés de terrain, nos autorités de tarification.
Oui, les travailleurs sociaux.
Les travailleurs sociaux, les centres médico-sociaux, mais aussi à un plus large public.
D'accord. Donc là, vous avez un discours de bienvenue, des exposés qui traitent un petit peu de la situation locale, c'est ça, et nationale ?
Voilà, j'allais y venir. Ouais. Donc du coup, la journée commencera à 9h jusqu'à 9h30 avec un accueil. Ensuite, un discours de monsieur le préfet de la Lozère, de 10h à 12h.
Du nouveau préfet de Lozère.
Du nouveau préfet de la Lozère, tout à fait. De 10h à 12h, on aura la présentation très intéressante, je pense, de l'expérimentation du projet Un chez soi d'abord. Donc, du coup, des professionnels travailleurs sociaux vont venir de Toulouse et Marseille pour pouvoir nous parler, eux, de leur vécu, de ce dispositif-là. Donc là, ce sera très intéressant. Donc, une présentation par la DIAL, la délégation interministérielle, à l'hébergement et à l'accès au logement. Ensuite, on fera la pause du déjeuner. Et l'après-midi s'organisera autour de tables rondes où on abordera des thèmes comme le logement, la santé et l'accompagnement social. Ensuite, il y aura après ces tables rondes une nouvelle pause et on aura une restitution dans l'amphithéâtre de l'IUP, donc en grand groupe, de ces tables rondes. La clôture de la journée donc sera réalisée ensuite par la DDCSPP.
Qu'est-ce que vous attendez des particuliers sur une journée comme ça ? Comment vous pensez, vous, que la société civile peut s'approprier un petit peu ces sujets de société ? Et comment les gens peuvent intervenir là-dedans, parce qu'on se sent assez démunis. Moi, je me dis des fois, je croise des gens, je leur dis, est-ce que je peux les héberger ? Qu'est-ce que je fais de ça ? En fait, alors, on tourne souvent la tête parce qu'on ne veut pas avoir le problème, ou alors on se pose la question, mais on n'a pas la réponse. Comment on peut, en tant que, que citoyen, on peut amener sa pierre à l'édifice ?
Leur demander s'ils ont qu'on faire le 115.
D'accord, simplement de dire aux gens...
Voilà.
Vous avez fait le 115.
N'en restez pas là, quoi. Il y a des gens qui sont 115, là pour vous. Ouais. Appelez le 115. Et surtout en Lozère, si vous voulez, le 115 est un peu l'image de la qualité de l'accueil que l'on peut avoir en Lozère, quoi. Vous n'avez pas un grand dortoir avec des petits lits. Vous avez des appartements, là, qui accueillent les gens.
D'accord.
Voilà.
Il y a un confort et un respect de l'intimité.
Voilà.
D'accord.
J'ai oublié de signifier tout à l'heure que aussi un de nos financeurs, c'est l'ARS, l'Agence régionale de la santé. Collabore avec nous aussi par rapport à tout ce qui est le domaine de l'hygiène. Voilà.
D'accord.
Mais si j'ai un peu oublié, c'est qu'on est un peu en manque, puisque comme la plupart des personnes que nous avons ont vraiment besoin d'un soutien aussi bien physique que psychique, on aurait besoin de moyens supplémentaires en termes de médical, voilà, de personnel médical.
D'accord. Vous parliez de soutien des citoyens.
Oui.
La Traverse, c'est donc une association. Est-ce que vous avez des bénévoles ? Est-ce qu'on peut être bénévole dans votre association ou pas du tout ?
Bénévole, pour l'instant, au niveau du conseil d'administration, oui.
D'accord. Parce qu'après, vous faites appel à des professionnels.
Oui, on fait avec des professionnels. Ouais. Voilà. On n'est pas, si vous voulez, on n'est pas un établissement où on donne des denrées, où on est vraiment dans un accompagnement social qui nécessite
des compétences.
Bon.
Tout à fait.
Voilà. Alors, par rapport à la question que vous aviez aussi tout à l'heure, je voulais simplement dire aussi que je profite de cette émission pour démystifier aussi l'image de la Traverse, qui nous colle à la peau aussi, comme
oui,
quoi nous occupons que des gens qui sont ingérables. C'est pas vrai, quoi. Dans le nombre total de personnes
mais
que
nous
avons.
Mais qui n'est pas ingérable aujourd'hui ? On est tous un peu
sûrement
ingérables. Sûrement 60 millions d'ingérables.
Non, mais,
hein.
Oui, mais...
Non, mais tout le monde a
je vous remercie de cette réflexion, mais il est vrai que... à l'image de la Traverse collent des gens en grande difficulté et en non-respect de la société civile. C'est faux. C'est des gens qui ont vraiment besoin aussi d'accueil, d'écoute et d'accompagnement et qui sont comme tout un chacun.
Et justement, pour changer cette image, il me semble que vous allez proposer au mois de juillet une manifestation qui est donc Solidar Fiesta, c'est ça ?
C'est
en quoi ça
consiste ?
En quelques mots et rapidement, parce
oui.
qu'on arrive à la
question. Je vais essayer. Donc du coup, l'association La Traverse organise le samedi 11 juillet 2015 la deuxième édition de Solidar Fiesta. Deuxième édition, puisque l'année dernière, en 2014, on avait déjà expérimenté Solidar Fiesta. Donc du coup, comme l'année dernière, nous allons proposer entre autres une exposition de photos, de dessins. Donc je lance un appel à tous les artistes, musiciens, chanteurs qui voudraient s'investir sur cette journée. Et c'est une excellente transition de la part de Monsieur Bled, puisque nous souhaitons encore et toujours créer du lien, mais surtout véhiculer une autre image de notre travail, de notre professionnalisme, de notre engagement auprès des personnes les plus démunies. Et je fais appel à tous les voisins de la rue du Torrent et autour du siège de l'association La Traverse qui seront les bienvenus pour que l'on puisse échanger sur notre quotidien, sur l'implantation de La Traverse dans ce quartier. Et je pense que des solutions existent.
C'est entendu. Pour les voisins, en tout cas. La porte est grande ouverte, vous savez, et on essaie de se faire écho un petit peu donc sur cette émission, mais aussi sur la structure qui est à côté de la Ligue des renseignements, un petit peu de ce qui se fait et de cette solidarité qu'on essaie, nous, de proposer au jour le jour, au quotidien, que ce soit sur des événements culturels, sportifs, humanitaires, sociaux. On pense que la solution, elle est dans la solidarité. Elle n'est pas du tout dans le chacun pour soi. Elle est dans la, dans la solidarité.
Mais d'un autre côté, si vous voulez aussi, on travaille aussi avec des administrateurs qui ne veulent pas trop communiquer en disant on n'a pas affiché la misère. Alors que nous, on affiche notre côté professionnel et tout le travail qu'il y a derrière, quoi. Et on a besoin aussi de stations de radio comme vous qui nous permettent aussi de nous présenter et de mettre en avant aussi, comme vous disiez, c'est l'argent de nos impôts, hein, n'oublions pas.
Ben oui,
voilà.
C'est ça,
et c'est aussi 26 ETP derrière.
C'est de l'économie locale. Ça contribue au bien-être et au bien-vivre ensemble. Hein, et ça, on l'oublie. Hein. On peut faire des grands discours sur la République, mais la République, elle commence avec vous, avec le travail au quotidien que vous faites et à la réinsertion des gens, à l'accompagnement de ces gens qui sortent de prison, qui ont peut-être fait une erreur à un moment de leur vie, mais ils sont pas condamnables, ils ont payé.
Plus d'autres qui ont eu des accidents de la vie, vous savez, nous avons des gens qui ont eu des grandes responsabilités, directeurs de supermarchés, grands jockeys internationaux.
Mais personne n'est à l'abri d'ailleurs, hein, on peut très bien un jour.
Accident de la vie.
Tout à fait, voilà.
Bon, bien, merci beaucoup de...
Ben, nous vous remercions également.
C'est de l'espoir. Il faut entendre ça comme de l'espoir. Et merci pour ces deux journées. On rappelle la journée, c'est le 11 juin à l'IUP de Mende, donc à partir de 9h, sur une action phare donc, qui s'appelle Un chez soi d'abord. C'est ouvert à tout le monde. Et puis le 11 juillet.
Voilà, la journée Solidar Fiesta. Donc venez nombreux découvrir l'association La Traverse ou tout simplement échanger avec nous sur notre quotidien. Merci à vous.
Voilà,
merci à vous.
Merci à vous. On vous rappelle que donc l'émission sera réécoutable et podcastable dès cet après-midi sur 48fm.org. Et exceptionnellement, la semaine prochaine, nous proposerons un MAG parce que comme c'est le centième, on avait trop hâte de le faire. Donc on n'attend pas deux semaines. Et voilà, en attendant, bonne journée et bonne semaine.
Bonne semaine.
Le Conseil Général soutient la diffusion culturelle tout au long de l'année en Lozère. Retrouvez sur culture.lozère.fr toute la programmation, les possibilités de pratiques artistiques, des reportages et des jeux pour gagner des places, abonnements et divers lots. Le Conseil Général de la Lozère vous présente les saisons et les événements culturels du département sur 48FM.
Agenda culturel du mardi 18 au lundi 25 mai 2015. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors mardi 19 à 21h de la musique à Langogne à la salle polyvalente avec un concert de flûte, cor et harpe.
Alors ce sont des œuvres du 19e siècle avec au programme Georges Bizet, Camille Saint-Saëns, André Jolivet, Alphonse Hasselmann, Richard Strauss et Georges Barboteux.
Voilà, c'est un concert proposé pour un tarif de 12€ et de 6€ et par la ville de Langogne. Mardi 19, toujours, mais à 20h30 et à la salle des fêtes de Saint-Germain-du-Theil, du théâtre, avec le spectacle L'Annonce.
Un plateau donc quasiment nu, 5 femmes répondent à une annonce concernant un emploi. Le libellé de l'annonce comporte curieusement des variantes. L'action se déroule pleine de rebondissements. Ces femmes se trouvent progressivement plongées dans un huis clos assez étrange. Les épreuves auxquelles elles sont confrontées défilent, plus décalées et plus insolites les unes que les autres, aussi déroutantes que burlesques. Arrive la sélection finale qui est loin de correspondre à l'attente des postulantes.
Alors c'est un spectacle tout public pour un tarif de 7€, de 4€ pour les enfants et gratuit pour les enfants de moins de 7 ans, et de 4€ pour les groupes. Et c'est proposé par le Théâtre du Hangar. Mardi 19, toujours à 20h30 à Florac, à la Genève Verte du Théâtre, avec le spectacle Mon frère, ma princesse.
C'est quoi être une fille ? C'est quoi être un garçon? Est-ce possible d'avoir envie d'être l'un ou l'autre? C'est quoi un garçon manqué et une fille manquée? Qu'est-ce que c'est? Ça existe? Autant de questions à l'origine de Mon frère, ma princesse, une pièce de Catherine Zambon, qui était déjà venue en Lozère pour un certain nombre d'écritures, un atelier d'écriture, et puis aussi d'avoir écrit un certain nombre de livres. Donc c'est une pièce où elle tente de répondre à une grande, avec une grande sensibilité. Le texte de Catherine Zambon crée un passage par le sensible. Nous accompagnons Alian, donc 5 ans, dans ses turpitudes, et nous nous mettrons à la place de ses parents. Nous mesurons le courage de sa sœur. Mon frère, ma princesse, raconte le quotidien d'une famille confrontée à la différence du plus jeune et porte en lui un drame bien plus universel.
Alors voilà, c'est un spectacle dès 8 ans pour un tarif de 10 euros, 8 euros et 5 euros, et c'est proposé par les Saints Croisés de Lozère et la Jeunesse Verte de Florac. Ensuite, mercredi 20, à 20h30 à l'église de Grandrieu, de la musique avec le concert de El Trio.
Alors c'est un panorama musical auquel nous convient les instrumentistes de l'Orchestre National de Montpellier-Languedoc-Roussillon, qui couvre des œuvres du 19e au 20e siècle, avec au programme Georges Bizet, Saint-Saëns, André Jolivet, Alphonse Hasselmann, Richard Strauss et Georges Barbouteux. Si l'on connaît bien l'alliance de la flûte, de l'alto et de l'harpe, celle de la flûte, du cor et de l'harpe est quasiment inédite, car il existe peu de pièces au répertoire pour ces trois instruments.
C'est un spectacle dès 8 ans pour un tarif de 10 euros, 8 euros et 5 euros. C'est proposé par les Saints Croisés de Lozère, le foyer rural de Pourcharès, le foyer rural de Borne et le foyer rural de Nasbinel. Le spectacle sera également joué le jeudi 21 mai à 20h30 à l'église Sainte-Marie à Nasbinel et également le vendredi 22 mai à 20h30 au château de Castanet à Pourcharès. Dimanche 24 mai au théâtre de la Rantelle à Saint-Flour-de-Mercoire, de la musique avec le spectacle Tribut des femmes.
Denis Péan et Delojo réunit ici chanteuses musiciennes, la tribu des femmes. Donc c'est un concert métissé et riche des multitudes d'horizons de ces femmes magnifiques. De Lojo à Titizaro, en passant par l'île de la Réunion, les bords de la Loire ou la pampa argentine de la Hermanas Caroni, il n'y a qu'un pas à franchir allègrement sur la scène. C'est un concert joyeux, poétique, fait de rencontres, de complicité, de talents, de sons venus d'autres continents.
Et c'est un spectacle tout public pour un tarif de 12 euros et 8 euros en tarif réduit, de 5 euros pour les enfants, proposé par l'Hermine de Rayon au Théâtre de la Rantelle, à 20h dimanche. Et enfin, lundi 25 mai, à 17h, à la salle des fêtes de Barjac, du théâtre avec le spectacle Les Monstres.
La compagnie 1, 2, 3, Soleil présente le travail de l'atelier théâtre des adultes de Barjac, Les Monstres. Ils nous grandissent parce qu'ils sont nains, nous rassurent parce qu'ils sont laids, nous effraient parce qu'ils sont différents et nous bouleversent parce qu'ils sont bouleversants. Ils nous réveillent parce qu'ils nous ressemblent, effroyable spectacle.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le portail culturel sur culture.lozère.fr. Bonne semaine à tous.
Bonne semaine.